Comme jadis, Magali Michelet. Lettre à Marthe Leray. Je vous remercie de tout mon cœur pour la peine que vous avez prise pour vous renseigner sur le sort de mon fiancé. Merci surtout pour la sympathie qui vous a fait m'écrire avec tant de délicatesse. Oh, je gardais si peu d'espérance que j'étais préparée à la suprême nouvelle. Gérard est mort en héros. Oh, je suis certaine que cette pensée apportera plus tard un allègement à la peine dont je me sens écrasée pour l'heure. Elle guidera même les décisions futures que la mort de mon fiancé pourrait me faire prendre. En ce moment, je ne puis me défendre de ressentir surtout ce qu'a d'affreux une pareille perte. Nous ne nous étions jamais vus. Nous nous étions découverts par le hasard de la publication de la correspondance adressée à une commune parente. La sympathie, puis l'amitié nous avaient conduits à un sentiment plus fort. Et voilà que, tragiquement, la destinée impose à notre roman le même dénouement qui, jadis, interrompit la correspondance de Gérard et d'Herminie. Que la volonté de Dieu soit faite. Plus tard, je vous écrirai. Vous me permettrez de vous écrire. Il est mieux que je ne le fasse pas avant quelque temps. Vous dites juste en parlant de l'atmosphère qui vous soutient, en vous exaltant là-bas. Agir, ne pas se replier sur soi-même. L'hiver déjà nous a pris dans ses griffes. L'hivernage, les gens, les bêtes, qu'il faut dès à présent prémunir contre le froid, contre la faim. Même pour remplir des devoirs qui pourraient nous sembler inférieurs par comparaison, il faudra que nous invoquions l'exemple des héros de la guerre. Je vous rends, avec reconnaissance, mademoiselle, votre baiser fraternel. Lettre à Gérard de Noulen. Mes jeunes années. Ma mère étant morte, je fus confiée aux soins de Nanine, une métisse crie recommandée à mon père par la mission. Mon père avait abandonné toute idée de défrichement depuis la mort de maman et faisait de la traite avec les Indiens du Nord. À peine les premières neiges permettaient-elles aux sleighs de circuler qu'il partait pour Edmonton acheter les marchandises qu'il échangerait contre de précieuses fourrures. De la grande ville, il rapportait pour Nanine et pour moi quelques pièces d'étoffe et toutes les provisions qui nous étaient nécessaires pour l'année. Dans une des caisses, d'où émanait une odeur de pommes et d'allumettes, il y avait toujours un jouet, des bonbons et quelques écheveaux de ces perles dont se servent les métisses pour broder les vestes et les mocassins en peau d'orignal. Ces voyages, précédant de si peu le départ pour le Nord, étaient l'événement heureux de l'année, à cause des gâteries si rares. Nanine et moi, nous demeurions seuls, durant ces longs mois d'hiver, dans notre petit chantier de bois rond, bâti au bord du creek, sans voir âme qui vive. Notre unique vache et nos cayous, petits chevaux indiens, maigres et déhanchés, étant au large, le grand travail de la bonne métisse était d'entretenir le feu, pour alimenter notre poêle, qui ne devait s'éteindre ni jour ni nuit. Mon père, avant son départ, durant des jours, avait charroyé les longs corps gris et sonores des trembles calcinés par les feux de forêt. Puis il les avait débités d'après la longueur de notre foyer. Nanine et moi n'avions qu'à rentrer de grosses brassées de ces bûches. J'eus 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. J'étais heureuse. L'autorité débonnaire de Nanine, je ne la sentais pas. Je vivais à ma guise. Mon père ne se souciait pas de moi. En été, dehors, je jouais avec mon chien, avec les poulains des cayous, avec le veau de notre vache, ou bien, grimpant dans une épinette d'où je pouvais apercevoir un triangle du lac, j'y demeurais des heures, attentive à la musique du vent glissant à travers les aiguilles vertes de l'arbre. Les jours de pluie, je me réfugiais sous le tipi, dressé au milieu de la cour, qui était le dernier rappel de l'enfance nomade de Nanine. Je restais étendue sur l'herbe qui croissait, longue et blanche, les narines dilatées à respirer l'odeur fauve des peaux de caribou tendues sous moi, me remémorant les histoires de chasse et de famine si souvent contées par la métisse. Mes premières années, je les ai vécues sans me douter que le monde existait. J'étais une petite chose qui évolue, se renouvelle avec les saisons, se transforme avec les années, se modifie comme la masse de l'épinetière qui se laisse bercer par le vent sans qu'il y ait de sa part réflexion et consentement. Je me revois, habillée d'étranges façons par notre métisse, petit papouse cuivré par l'air vif et le soleil brûlant, joyeux de contempler son image à la surface du lac, parmi le frémissement des branches vertes, ou chevauchant sans selle sur le petit caillou café au lait, au trot court et rapide, infatigable. Les bonnes galopades. Mon domaine était immense, sans limite. Je suivais les anciens trails de bœufs musqués que les passés innombrables ont incrustés dans le sol mou de la prairie. Respirer la brise forte, activée par la vitesse, m'enivrait de liberté. J'éprouvais la confuse conscience de vivre de toute la plénitude de mes jeunes forces, germées et écloses aux soins de cette autre jeune force d'une nature vierge. Jusqu'à 10 ans, j'ai vécu ainsi, me croyant à peine différente des plantes, des arbres que j'aimais comme des frères bavards ou silencieux, toujours disposée à partager mes jeux. Mon père. Plus jamais mon père ne reprit le trail pour faire la traite avec les sauvages du Nord. L'inoubliée douleur se détendit, se fit moins farouche. Après Noël, oh, ce fut l'hiver bien réellement. Il y eut comme d'habitude les journées de froid terribles pendant lesquelles, seul, mon père sortait pour faire le train, c'est-à-dire abreuver les cailloux, la vache, leur donner du foin arraché à grand-peine à la meule couverte de neige, soigner les poules. Le temps, cependant, me paraissait moins long. L'heure de rentrer le bois n'était plus attendue comme la seule qui apportait une distraction. J'avais la présence de mon père. Si je le questionnais, il me répondait, s'attachant à se faire comprendre de la petite primitive que j'étais. Je n'avais plus de goût aux légendes de Nanine, car il me racontait, lui, des histoires de gens qui étaient morts depuis longtemps et dont plusieurs avaient porté notre nom. Lorsque j'avais été très sage, nous regardions des images dans un grand livre qui sentait le moisi. Je restais souvent absorbée, comprenant mal qu'elle représentait des gens, des choses qui existaient comme mon père, comme Nanine ou moi, comme notre maison ou le lac. Puis venait la leçon de lecture. Je faisais des progrès assez lents, non que j'eusse la tête dure, mais il arrivait fréquemment que le livre restait ouvert et que, les yeux levés vers ceux de mon père, je faisais, par une question quelconque, dévier la leçon de lecture vers une leçon de choses. Ah, je sens bien maintenant quel éducateur d'instinct il était. Le lien de notre affection se faisait plus étroit dans l'intimité de ce premier hiver passé ensemble. Il vivait penché sur mon âme, il en surveillait pieusement l'éclosion, les doux souvenirs de cet hiver où je découvris à la fois sa tendresse et son intelligence. Des jours s'ajoutaient aux jours, formant des mois, des saisons. Notre chantier à demi creusé en terre, couvert d'écorce de bouleau, notre étable à 3 murs, accotée à la butte, prirent forme de ferme, parce que s'agrandissait un peu plus chaque année la clairière, dont l'habitation était le centre. Nous n'étions plus des squatters en marge de la civilisation. Nous faisions de la terre, nous devenions des colons. Après sa rude vie de défricheur, comme après une de ses journées, mon père s'en est allé dans l'autre monde. Je ne le savais pas, malade. Il mit moins d'un jour à mourir, malgré nos soins entêtés à retarder l'heure de la mort pour donner au médecin, un docteur d'Edmonton, le temps d'arriver. Bien que nous fussions à la saison si courte des labours et des semailles, que les chemins fussent défoncés par le dégel, nos plus proches voisins, avertis de la maladie grave de mon père, ne tardèrent pas à arriver. D'autres vinrent le lendemain, qui demeuraient à plus de 15 milles de chez nous, pour la veillée funèbre. Ils dételaient leurs wagons ou leurs bogueys, attachaient les chevaux à la clôture et entraient silencieusement. Ils venaient à moi. Je n'entendais pas leurs paroles de consolation péniblement cherchées et formulées. Leur présence rendait témoignage à mon cher mort. Un silence suivait la récitation du chapelet que chaque arrivant commençait à mi-voix. Puis, au fond de la salle, on entendait à nouveau le bourdonnement d'une conversation assourdie par respect pour le voisinage de la mort. Des lambeaux de phrases venaient jusqu'à moi. Avec leur propre vie, ils repassaient la vie de mon père. Les débuts difficiles de la colonie, les années de malchance où les animaux périssaient sans que l'on sût pourquoi, la lutte contre le bois pour faire un peu de terre, les gelées dans une région trop fermée, détruisant en une nuit claire d'août l'espoir d'une année de travail, la difficulté de vendre les quelques produits qu'on pouvait tirer du sol et de la laiterie, l'obligation de la traite qui laissait aux marchands tout le profit. On citait des chiffres qui étaient une dérision. Parfois, une voix rappelait un malheur plus particulier. Une mort, un incendie, des chevaux noyés dans un trou de boue sur le chemin. Les hommes se taisaient un moment, comme accablés par les souvenirs de temps si durs. Toujours il s'en trouvait un pour reprendre la parole. Une chance qu'il était là, toujours de bons conseils, fiable, prêt à aider de son travail, de son argent, de ses chevaux, de son lard, de ses patates. Ah, la place lui doit gros. Avec son éducation, il nous a rendu bien des services à Edmonton. Oui, on perd gros, nous autres. Nous le conduisîmes au cimetière, petit carré de terre vierge clôturé de perches, par une de ces journées de printemps rares encore en avril. Un soleil léger, frileux, argentait les bourgeons des saules, glissait sur les troncs reverdis des arbres. Après un deuil blanc de 6 mois, la terre se réveillait, tout à coup, brune, colorée, frémissante de vie, pour un dernier adieu à son vieux serviteur. Les saisons. Je n'ai pu aller au bureau de poste, c'est Jack Davis qui nous apporte le courrier. Qui est Jack ? Une Anglaise d'Angleterre. Oh, ne souriez pas, il y a des Anglais d'Angleterre et des Anglais canadiens, et c'est très différent. Jack est la seule représentante de sa race à travers notre village de langue française. Une drôle de petite bonne femme, laide, avec des cheveux roux en masse qu'elle coiffe en épaisse natte enroulée. Son vocabulaire français ne comprend pas plus de 10 mots. Elle vit en bonne intelligence avec tout le monde. Et, pour répondre au désir du père Chassin, elle a quitté ses accoutrements masculins pour prendre le costume habituel à son sexe, depuis que la contrée est un peu peuplée. Nul ne connaît rien de son passé. On a même fini par ne plus se demander d'où elle vient et pourquoi elle s'est établie ici. Le désir de vous faire connaître nos alentours m'entraînera souvent à m'embrouiller dans mon récit, à partir à l'aventure parmi les têtes de chat. Voyez, il faudrait déjà ouvrir une parenthèse pour vous expliquer ce que sont les têtes de chat. Ce sont les myriades de mottes de terre. Et ne me demandez pas à chaque instant la signification de tel ou tel mot à la mine bizarre. L'un est d'authentique noblesse française, l'autre vient du patois poitevin ou normand. Celui-ci est marin, celui-là est terrain. Cet autre est un anglicisme qu'on rencontre trop fréquemment dans l'Ouest. Donc, Jack m'apporte une lettre de vous, mon cousin. J'ai tant de peine de vous trouver si las que par réaction, je m'arme de tout mon courage pour venir à vous. Je me sens cependant une bien petite fille et tellement inexpérimentée pour accepter ce rôle que vous me tracez presque impérieusement en dépit de votre air de mendiant. Il faut achever votre convalescence au sein de l'apaisement qui vient de la solitude. Mais pourquoi vouer à la stérilité des heures sans prix pour votre tempérament d'artiste ? Où en est le projet de tableau qui vous fit monter à la tour d'Herminie le jour où vous trouvâtes les fameuses lettres ? Pourquoi votre pinceau renoncerait-il à traduire en une œuvre incomparable la poésie de votre vallée ? Si l'amertume a commis le crime atroce de tuer en vous l'inspiration, ce mécanisme merveilleux de l'art, alors consacrez vos quelques mois de repos à l'une de ces œuvres sociales que l'on cite à l'honneur de la France rurale. Quelle heure est-il à Noulen ? Chez nous, c'est le soir, 8 heures. La pâte a mal levé. Henriette n'a pas fini de cuire le pain. À travers les planches mal jointes de la porte, l'odeur chaude vient jusqu'à moi et me réjouit. Ça sent la maison. La tête monstrueuse de Caribou, surmontant la cheminée, est tout éclairée de lueurs rouges, rose clair, que la souche de saule déroule sans fin. Nous pouvons parler de l'hiver proche, sans trop d'effroi. Depuis longtemps, les fortes gelées de la nuit, les matins et les soirs glaciales, les rafales de vent secouant les arbres dénudés, mériteraient à la saison présente le nom d'hiver. Mais nous nous plaisons à reculer l'automne jusqu'à ses extrêmes limites. Le printemps, l'automne, l'on n'entend guère que ces deux noms dans l'énumération des saisons canadiennes. Dieu sait pourtant que l'hiver et l'été ont un caractère si nettement prononcé qu'on ne saurait les méconnaître au passage. Entre ces deux saisons, le printemps est un trait mince, éphémère, tracé à la hâte par le temps. L'ardeur des sèves trop longtemps contenue, la soif de vie et de lumière qui érige le moindre brin d'herbe et ressuscite la plus humble bestiole, la complicité d'un soleil qui semble avoir brûlé les étapes pour nous arriver tout droit des tropiques, tout concourt à infliger ici, au printemps, la soudaineté, la rapidité d'une brusque transition. Notre automne mérite plus justement l'importance que nous lui accordons. C'est la saison canadienne. Ici, dans notre nord-ouest, il nous arrive avant que les avoines tardives ne soient coupées. Il encadre les champs, encore mouvants d'or clair, de la somptuosité d'or plus vif que le gel de chaque nuit rouillera. Les broussailles rousses semblent vivantes avec leur feuillage à peine froissé. Les midis ensoleillés ne perdent que peu à peu leur chaleur. Il faut que, soudain, un violent coup de vent souffle sur ce décor rutilant pour le disperser. Et, jusqu'à ce que la neige recouvre la terre, nous ne nous résignons pas à appeler hiver une saison sans feuilles, sans chants d'oiseaux. La poudrerie. Nous avons eu, au commencement de la semaine, une véritable tempête qui a failli devenir meurtrière. La nuit était tombée très vite, comme il arrive lorsque le ciel plombé est chargé de neige. Tout était vraiment hostile dehors. Le train fini, nous rentrions les dents serrées, contractées de l'effort qu'il avait fallu soutenir pour résister au froid intense. Tout à coup, la bourrasque descendit du nord avec une violence inouïe dont j'ai rarement été le témoin. C'était la terrible poudrerie. À peine tombée, La neige se convulsait, entrait en colère. Un tourbillon l'arrachait du sol, la jetait aux branches des épinettes qui nous abritent du côté du nord. Elle se ruait à l'assaut de la maison et les murs solides tremblaient comme pris d'épouvante. Un silence tragique s'étendait parfois et ses répits étaient plus angoissants que la fureur de la tempête. Toujours la même pensée serre les tempes. Où sont les voyageurs, ceux qui ont été surpris en prairie? Le bois est hospitalier comparativement, mais la plaine. Quand le vent souffle en piquantes épines, la neige frémit de son grand corps pâle, égare alors à tout ce qui est vie. La vague insensée balaye en hurlant la prairie, s'écrase contre les obstacles, les enserre, les étouffe, rejaillit en écume étincelante. Puis elle s'apaise, murmure, caresse, ensorcelle le voyageur affolé pour reprendre la minute suivante son ardeur passionnée. Les lames succèdent aux lames, effaçant les pistes. Tout se confond, tout s'abîme, tout craque dans la clameur d'épouvante du brouillard blanc. Ce soir-là, je songeais invinciblement à ceux qui luttaient à des milles et des milles d'ici, ou peut-être tout près, au cœur de la solitude glacée, à ceux qui pouvaient périr en pleine tourmente d'un martyr ignoré et dont les loups viendraient, dans la nuit sans espoir, flairer les lamentables dépouilles. Je songeais aux poules de prairie qui se blottissent, transies, sans détente de leur petit corps, au creux des saules où restent accumulées les feuilles pointues et sèches. Je songeais aux petits oiseaux blancs, ceux qui prennent la livrée de notre hiver pour ne pas déserter et se blottissent en grappes désespérément cramponnées à la branche grinçante. Je songeais à toute la misère qui tord l'âme des êtres et des arbres torturés par les éléments. Et, tout à coup, entre deux rafales, un grand cri humain est monté, terrible, désespéré, résumant la force d'un homme en lutte contre la mort. Faire brûler. Surtout n'allez pas croire, mon cousin, que le défrichement soit un jeu. S'il est des souches que l'on peut laisser en terre, il en est d'autres tordues, noueuses, aux longues racines, contre lesquelles l'homme doit se battre, les muscles tendus, la hache haute, sans cesse abattue dans un bref soupir qui seconde l'effort. Nos pionniers d'Alberta, s'attaquant aux saules, aux trembles, aux bouleaux, aux liards, ne peuvent être comparés aux lutteurs des forêts du Bas-Canada. Néanmoins, la terre qu'ils font est bien fille de leur sueur. Le carré, s'agrandissant d'année en année autour des bâtiments, m'inspire toujours une admiration voisine du respect. Mon vieux mourrier dégageait le champ, cet après-midi, des branches de saules coupées, des troncs de quelques jeunes trembles morts, tués par le feu, et qu'il suffisait d'ébranler de la main pour les arracher avec leurs racines. Mon travail consistait à tirer ce bois, à l'empiler à quelques verges de là, sur le chaume du champ, au-dessus d'une grosse poignée de foin sec que l'on enflammerait dès que le tas serait suffisant pour constituer un foyer. Faire brûler. Il me semble que si je m'en allais loin, très loin, au cœur des villes ou au sein des campagnes civilisées depuis des siècles, il me suffirait de répéter ces quatre syllabes pour retrouver au bord de ma narine l'odeur du bois craquelant, odeur faite de l'amertume des écorces, de la sève bouillante des racines de saule au parfum rare. Je reverrais les jeux des petites flammes claires qui lèchent les bords du bûcher et changent de teinte suivant les essences qu'elles consument. Je contemplerai ces flammes, toujours plus longues, plus souples, détendues tout à coup en un tourbillon de fumée que le vent emporte et qui s'accrochent aux branches du fourré resté debout. Je reverrai les langues étroites, furtives, du feu qui court, et s'en irait incendier la forêt s'il ne rencontrait sous une touffe d'herbes sèches la poignée de neige en cristaux. Faire brûler, c'est une ivresse. Cet après-midi, j'ai fait brûler avec passion. Je traînais des branches qui s'agrippaient vainement aux broussailles, comme des condamnés qui voudraient échapper au supplice. Je ramassais des tisons à demi éteints pour les rejeter au milieu du brasier. Bien qu'il n'y eût pas de danger à cause de la neige, je surveillais les feux qui courent. Les joues me brûlaient. De temps à autre, j'y portais le revers frais de ma main gantée. Pour dégager mes yeux, je repoussais du bout des doigts mes cheveux qui sortaient en touffes de mon béret de laine. Tout à coup, l'idée m'est venue que vous pouviez surgir au détour du boqueteau et, vrai, j'ai vu votre grimace en découvrant telle qu'elle était faite, la petite cousine. C'était tellement drôle à imaginer, ce cousin artiste et raffiné, en présence de cette petite sauvagesse, rouge de visage plus qu'une indienne authentique, peinte en couleur de guerre par ses gants charbonnés, semblant mimer, dépeigner, une étrange danse du feu. C'était drôle, au point que j'ai éclaté d'un rire fou, impossible à réprimer, se mêlant au crépitement frénétique d'un paquet de branches jetées dans les flammes. Le maringouin est un des fléaux de la prairie. Des colons, paraît-il, ont abandonné le pays certaines années où cette engeance était plus particulièrement nombreuse. Un seul moyen de défense est efficace pour les gens et les bêtes. La boucane. La bonne boucane qui prend à la gorge, fait tousser, larmoyer, mais débarrasse du dzzz des moustiques. Ne sait pas faire qui veut une belle boucane. C'est un art. Une poignée de foin sec au fond d'un vieux seau, quelques menus branchages, et quand le feu commence à flamber, une fourchée de litière, une motte de gazon. Si la fumée sort grise, épaisse, décrivant des cercles de plus en plus grands, un silence se fait presque aussitôt apaisant. Le patriotisme. Je vous l'ai dit, Gérard, mon père, après qu'il se fut dégagé de l'engourdissement de son chagrin, agit en patriote. Or, le patriotisme, comme nous l'entendons chez nous, ne comporte aucune idée belliqueuse. Il est la lutte incessante pour garder le patrimoine, religion, langue. Lutte pacifique, réclamant la vision de l'avenir, le courage des responsabilités. Mon père, en plaçant Laverne sur la carte d'Alberta, en installant 50 familles canadiennes, en préparant la place de 100 autres, a fait œuvre de patriote. Les 16 enfants des Labbé, les 12 des Trudel, voilà encore du patriotisme. Mademoiselle Saint-Jean, à l'école du district, c'est une patriote. Je vous citerai 10 autres exemples du même genre où vous ne trouveriez pas plus trace d'héroïsme à grand effet. Ce sont les héros de cette espèce, cependant, qui, sous l'inspiration et la conduite de notre clergé, ont assuré la survivance française au Canada. Chez vous, on ne semble pas comprendre ce patriotisme, ou, plus exactement, les écrivains qui nous sont venus de France pour étudier nos conditions de vie, dégager nos aspirations, ont rarement su pénétrer l'âme canadienne. Combien de fois mon père et moi avons été péniblement frappés par l'incompréhension dont nous apportaient l'écho quelques livres de voyageurs publiés en France. Gérard, viendrez-vous ? Et faudra-t-il avoir la tristesse de nous voir peut-être méconnus par vous. À la réflexion, je me dis que c'est impossible, que vous êtes placé dans des conditions bien différentes, qu'à l'opposé de tant d'autres voyageurs, vous débarquerez avec une connaissance au moins élémentaire du pays, géographique et historique, et que plus réellement que tout autre, vous viendrez en parents affectueux. À tout hasard, ne sachant ce que renferme la bibliothèque de Noulen en œuvres canadiennes, je vais puiser dans celle de mon père et vous envoyer ce qu'il faut avoir lu sur le Canada pour aborder l'étude de certains problèmes que vous rencontrerez ici. Oui, je me rassure. Venez. Qui sait le rôle que la Providence réserve aux cousins du héros des plaines d'Abraham ? Donnez-moi beaucoup de détails sur vos préparatifs. À quel moment viendrez-vous ? Combien de temps resterez-vous au pays ? Bien entendu, vous monterez dans l'Ouest. Vous verrez ce que nous avons fait avec l'aide de nos missionnaires. Mon père comptait des amis bien placés à Edmonton. Je vous adresserai à eux et notre courte histoire de 20 ans vous surprendra peut-être. Voyage de Laverne à Edmonton. Mon cousin, je suis partie de Laverne dans le seul qui du postillon. Les chemins étaient détrempés par les pluies de ces derniers jours. Les criques débordaient. Notre cheval frayait mal sa piste sur le trail, battu pour 2 chevaux. Enfin, je n'avais pas reçu de vous le plus petit mot avant mon départ. Oh oui, vraiment, j'étais une pauvre chose qui s'en allait ballotter sur cette réduction de voiture, les mains jointes sur mon sac de voyage, les tempes tendues d'inquiétude, de je ne sais quelle appréhension. Ainsi, j'ai fait 20 000 avant d'atteindre Bois Brûlé, la station. Il était 1 heure. Sur la haute galerie de bois de l'hôtel, des hommes fumaient, le chapeau rabattu sur les yeux, le dossier de leur chaise renversé contre le mur. « Faut vous presser, mademoiselle Laverne, si vous voulez trouver de quoi. » Je n'avais pas faim. Je suis entrée cependant dans la salle à dîner, fraîche, avec ses blinds de toile verte qui faisaient une demi-obscurité préservatrice des mouches et des maringouins. Ma fille de salle, familière, m'a vanté son plat préféré, m'a servi la boulette de beurre, les crackers, qui ont toujours un vague goût de pétrole, et un steak plus substantiel. Vous croyez sans doute, mon cousin, que voyager, c'est-à-dire employer les moyens de locomotion modernes, doit m'empêtrer quelque peu. Détrompez-vous. Nous, gens de l'Ouest, nous, filles de la prairie, avons la prétention d'être à notre aise partout. Pour moi, me voici confortablement assise à l'angle de la banquette de velours rouge et de la paroi du char. Nous appelons char ce que vous nommez du mot anglais « wagon ». Il est vrai que dans l'Ouest, nous appelons « wagon » ce qui est pour vous un chariot. D'une plume malhabile, je trace ces lignes qui vous arriveront, peut-être, puisque j'adresse au commissariat canadien à Paris avec prière de faire suivre. Là, sans doute, on est au courant de votre programme. Ainsi, vous vous amuserez à suivre votre sauvagesse quittant sa solitude, les bêtes amies, pour s'en aller, telle une héroïne de roman, au-devant d'un cousin inconnu, au nom de héros canadien. Non, merci. I beg your pardon. Excusez-moi, Gérard, ce n'est pas à vous que je m'adresse, mais au newsboy qui s'entête à m'offrir des bananes. Ah, cette fois, je viens de le remercier, en français. Mes compagnons de voyage, assez nombreux, car vous le verrez, nos chars ne ressemblent pas aux vôtres. Notre longue voiture d'acajou n'est pas divisée en compartiments. Rien n'est plus curieux que de suivre le changement de physionomie du char, enfin si j'ose dire, à mesure que s'égrènent les stations. Au départ de Bois Brûlé, nous étions 10 de passagers, la plupart des Canadiens anglais. Sur le quai de Greenwater, nous avons pris un chargement de Norvégiens, rudes hommes, aux poils roux, à l'œil clair. Ils viennent d'un settlement prospère situé au sud de la ligne. Ces gens sont travailleurs, habitués à un climat rigoureux. Impossible de rien comprendre à leur langage. Ils sont la première génération importée. Leurs enfants, eux, se serviront surtout de l'anglais. Il est peu probable que la troisième génération entende un mot de norvégien. Voilà ce qui nous différencie, nous, Canadiens-Français, et pourquoi nous ne voulons pas qu'on assimile notre langue à celle des étrangers qui viennent peupler le pays. Nous sommes chez nous, et notre langue y a sa place de droit. Blaisville, Blaisville. Oh, l'accent du contrôleur, pour annoncer la station qui porte ce nom, bien canadien. Au bout du long couloir, voici qu'apparaît une famille canadienne, sans aucun doute possible. La mère retient sa petite troupe et, d'un coup d'œil, choisit la place nécessaire pour caser tout son monde. Il faut croire que mon visage lui donne confiance, car, du menton, elle désigne ma banquette et celle qui lui fait vis-à-vis. « Sa mère, je peux me mettre près du châssis ?»« Ah non, laisse la place à ton petit frère. Tu es grande, tu verras par-dessus son épaule. » « Hormidas, fais attention à ta petite valise, mon garçon. »«
Oui, son père. »«
Maman, qu'est-ce qu'elle fait, la dame ?» Je ne souris pas. « Elle écrit, hein, bien certain, » répond une blondinette. « J'ai soif. » Deux, trois voix reprennent.
« J'ai soif. »«
Allez boire, » dit sa mère, en donnant à l'aînée une tasse de granit, « et rapportez de l'eau pour votre petit frère. » Hormidas, qui me semble avoir un mauvais caractère, grogne.
« Il est trop mossieux. Faut qu'on lui charrie son eau. »
Ce n'est pas de la dernière amabilité, ce n'est pas du français très châtié, mais même ce grognon d'Hormidas, je l'embrasserai, tant mon oreille est réjouie des mots, de l'accent. Je goûte la meilleure minute depuis mon départ. Oh, je veux la payer, dès que les enfants reviennent de la fontaine suspendue contre le lambris à l'autre extrémité. Qui veut mon coin ? De surprise, ils se sont arrêtés. L'eau vacille au bord de la tasse que porte Hormidas. « Allons, dites merci à la dame, » commande son père. « Comme de raison, les enfants s'aiment bien regarder par le châssis, hein, mais il ne faudrait pas qu'ils vous badrent, madame. »«
On ne sera pas badrants, »
promettent-ils en se groupant tous les six comme ils peuvent, dans les deux coins, entre les banquettes. « C'est pas des méchants enfants, » affirme sa mère. « On sait ben. » C'est la première fois qu'il monte dans les chars. C'est-à-dire, mon Hormidas est né en bas de Québec, mais il était bien petit quand on est venu dans l'Ouest. La connaissance est aussitôt faite. J'entends une histoire de colonisation qui ressemble à celle de Laverne, à celle de chaque paroisse. Les temps durs sont passés, on commence à voir clair devant soi, au propre et au figuré, car le bois recule, fait place aux moissons. « Sans Hilda, oh, j'aurais ben souvent été découragée, » fait son père. « Une femme de même, une pochée de fleurs pour les enfants. Faut pas en demander de plus au bon Dieu. » Zilda a rougi sous le compliment. « N'allez pas croire, mon vieux, surtout. J'ai braillé souvent, les soirs, en pensant à la belle place qu'on avait laissée pour s'en venir dans ce bout-ci. Ah, sûrement qu'on en a arraché, nous deux. » C'est derrière nous maintenant. À cette heure, le quart de section est prouvé. On ne doit plus rien sur les machineries. S'il n'y a pas de malchance, on se bâtira en frame cet automne. Voyez-vous, mademoiselle Laverne, je lui avais dit mon nom. Quand un homme est sur une terre, pas mortgagée, bien bâti, 50 arpents cassés, des animaux, de l'eau et du foin en abondance, on peut dire qu'il fait une belle vie. « On sait ben, » approuve sa mère. C'était l'idée de mon père. Un homme qu'avait ben du jugement, votre père, mademoiselle Laverne. Dommage qu'on l'ait pas eu au Parlement.
Edmonton next. Edmonton next.
Le contrôleur, gros et jovial, traverse le char en jetant l'annonce en un anglais à peine compréhensible. Zilda ramasse sa petite troupe. Vous ai-je dit la raison du voyage de la famille Poirier, car c'est ainsi qu'elle s'appelle. Réaliser un rêve ancien dont le proche accomplissement rosit de bonheur les joues de la brave petite femme. Faire un groupe photographique pour l'envoyer là-bas, en bas de Québec, à mes mères, qui ne connaît pas ses petits-enfants. Pendant longtemps, on a espéré qu'un artiste passerait par le village. La tante, toujours déçue, a conduit ses bonnes gens à des résolutions décisives. Un voisin ami gardera la ferme pendant 3 jours, et Zilda pourra envoyer soigneusement emballé le groupe. Je le vois, son père et sa mère assis. Hormidas, derrière, debout. La blondinette, à sa droite. La brunette, à sa gauche. Le bébé sur les genoux de sa mère et le petit gars aux cheveux frisés, assis sur le tapis du studio, les jambes croisées sous lui. Sur tous ces visages, le sourire spécial, attendrissant des belles familles. Mais Edmonton next. Rentrons le bloc-notes, fermons le stylo. Nous n'étions plus des hors du monde. Il y eut des cas de misère, de découragement, même une sombre histoire de folie causée par l'isolement. On ne civilise pas un pays d'arbres, de plaines nues, de solitude affolante, sans larmes et sans mort. Mais dans les réunions autour des poêles l'hiver, dans le coup sec des haches l'été, il y avait toute une volonté de dompter les forces contraires et de garder française cette parcelle de l'Ouest immense. La marée humaine montait peu à peu autour de nous. Un de ces missionnaires colonisateurs dont la hardiesse aura fait beaucoup pour créer des îlots français, pour parsemer notre carte de noms aux consonances familières, pittoresques, savoureuses, donna un essor nouveau à la colonie en rapatriant des États-Unis une 30aine de familles canadiennes. Désormais, par les claires nuits de gelée, alors que les bruits s'entendent à des milles, la voix des chiens se mêlant à celle des coyotes se fit de plus en plus proche. Le vent du sud et de l'est apportait, de moins en moins assourdis par la distance, les sons lents et graves des cloches de troupeaux. Nous n'étions plus des hors du monde. Les arpenteurs achevèrent de tracer les lignes de section, divisant le pays environnant en un damier gigantesque. Les coupures vertes des troncs d'arbres se cicatrisèrent. Seules les longues trouées minces des lignes, les routes futures, demeurèrent droites, nettes, comme un ordre impérieux.